Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes au Sahel. La France se prépare à rendre un hommage national à ses 13 militaires tués accidentellement lundi soir lors d'une opération militaire contre des djihadistes au Mali. La ministre française des armées, Florence Parly, doit se rendre sur la base de Gao dans le nord du Mali avec le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, pour s'incliner devant les 13 cercueils avant le retour des corps en France. Une cérémonie d'hommage national présidée par le président Emmanuel Macron aura lieu à Paris dans les prochains jours. Les 13 militaires décédés étaient à bord de deux hélicoptères qui sont entrés en collision alors qu'ils appuyaient des commandos parachutistes au sol qui venaient de repérer des pick-up suspects dans le sud du Mali. Les deux boîtes noires des appareils ont été récupérées pour être analysées par des enquêteurs. Dans les prochains jours, elles vont parler, a assuré le général Lecointre en soulignant qu'une opération militaire au Sahel est un exercice très compliqué, exigeant une coordination extrêmement fine dans des conditions de combat toujours difficiles. Sahel toujours, les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont exprimé hier leur solidarité avec la France après la mort des 13 soldats français de l'opération Barkhane dans la collision accidentelle des deux hélicoptères au Mali. Les détails avec Irene Herman Umbo.
Vous avez dit à juste titre que ces soldats sont morts pour la France. J'ajouterai qu'ils sont morts pour le Mali, qu'ils sont morts pour le Sahel, qu'ils sont morts pour la liberté, qu'ils sont morts pour l'homme, a dit le président malien Ibrahim Boubacar Keïta dans un message de condoléances adressé à son homologue français Emmanuel Macron. Dans un message également posté sur Twitter, le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore salue la mémoire des soldats disparus et adresse ses sincères condoléances à leurs familles ainsi qu'à l'ensemble du peuple français. Le président nigérien Mohamedou Issifou a fait de même sur Twitter suite à la mort tragique de 13 soldats engagés à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme. Il a exprimé toute sa solidarité et sa compassion pour les familles. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en proie aux violences djihadistes et l'opération française Barkhane combat aux côtés des armées nationales de ces pays.
Toujours concernant la lutte contre les djihadistes dans le Sahel, Washington a conseillé mardi aux ressortissants américains de ne plus voyager au Burkina Faso, jadis prisé par les touristes, mais en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes. Selon le département d'État, le ministère américain des Affaires étrangères, le Burkina Faso est désormais à l'échelon le plus élevé de menaces pour les voyageurs en raison du terrorisme, de la criminalité et des enlèvements. De nombreuses prises d'otages ont eu lieu ces dernières années au Burkina Faso, confrontées à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Élection présidentielle en Guinée-Bissau, Domingo Simoes Pereira, le candidat du PAIGC, parti historique dominant dans le pays, est arrivé largement en tête du premier tour du scrutin. Il affrontera au second tour Umaro Sissoko Embalo, porte-étendard du MADEM, une dissidence du PAIGC. C'est ce que révèlent les résultats provisoires rendus publics mardi par la Commission électorale nationale. Domingo Simoes Pereira, qui a été chef de gouvernement en 2014, 2015 a recueilli 40,13% des voix. Umaro Sissoko Embalo, premier ministre entre 2016 et 2018, 27,65%. Le président José Mario Vaz, élu en 2014 et à nouveau candidat en 2019, est arrivé en quatrième position avec 12,41% des voix. Le second tour est prévu le 29 décembre. Élection en Namibie maintenant, la population se rend aux urnes ce mercredi dans les élections générales appelées à confirmer la mainmise de la SWAPO, le parti au pouvoir depuis 1990 sur le pays, malgré la grogne croissance de la population contre la crise et la corruption. Face à une opposition désunie, le président sortant Hage Geingob, 78 ans, et son organisation du peuple du sud-ouest africain, la SWAPO, semble assurée de remplir pour 5 ans, en dépit d'un bilan des plus contrastés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Est maintenant, le Kenya devrait se doter d'un poste de Premier ministre. C'est la recommandation d'une commission dans une série de propositions visant à renforcer l'unité du pays et à sortir du cycle des élections violentes. Le point avec Abdourahman Dia.
Ce rapport très attendu, établi après plusieurs mois de consultations dans tout le pays, a été remis hier au président Uhuru Kenyatta en présence du vice-président William Ruto et de l'opposant Raila Odinga. Cette commission avait été créée après la poignée de main en mars 2018 entre les deux rivaux, M. Kenyatta et Odinga. Avec ce geste symbolique, les deux hommes avaient promis de tirer un trait sur la réélection contestée de M. Kenyatta et de réconcilier le pays. Le schéma envisagé par la Commission, qui nécessiterait une réforme de la Constitution, prévoit que le président reste le chef d'État et de gouvernement. Le Premier ministre serait chargé de superviser et gérer les affaires courantes du gouvernement. Le Kenya n'a eu que deux premiers ministres dans son histoire. Jomo Kenyatta, le père de l'actuel président, en 1963, avant de devenir chef de l'État, et Raila Odinga, dans un gouvernement d'union nationale, entre 2008 et 2013. La fonction avait été supprimée par la Constitution de 2010, destiné à sortir de la crise électorale de 2007-2008.
Violence en République démocratique du Congo. Deux personnes ont été tuées mardi dans l'est du pays dans de nouvelles manifestations d'habitants qui dénoncent ce qu'ils appellent l'inaction des autorités congolaises et de l'ONU face au massacre de civils attribué au groupe armé ADF. 80 morts depuis le 5 novembre. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné aussi bien les attaques contre les civils que celles contre les installations onusiennes lors d'une réunion hier sur ces émeutes anti-ONU qui ont fait depuis lundi au moins 6 morts à Beni, grande ville de la province du Nord Kivu. Le Conseil de sécurité s'est par ailleurs inquiété des conséquences des violences sur la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC. Et en RDC toujours, inondations, glissements de terrain et électrocutions ont fait au moins 41 morts mardi à Kinshasa. Le vice-gouverneur de la capitale, Néron Mbungu, affirme que les dégâts matériels et humains sont énormes, en précisant que le bilan est encore provisoire. Actualité américaine maintenant, demain c'est Thanksgiving, la fête d'action de grâce, la plus importante fête traditionnelle ici aux États-Unis. Observée le dernier jeudi du mois de novembre, c'est aussi la période où les routes, les trains et les avions sont bondés. Presque tous les Américains veulent se retrouver en famille pour manger la dinde et la partager avec les étrangers ou les plus démunis. À Arlington, près de Washington, chaque année la tradition est respecté pour faire la fête avec les réfugiés qui viennent d'arriver aux États-Unis. Le récit de Lionel Gaïma.
C'est un Thanksgiving assez particulier qui réunit à Arlington des habitants et des réfugiés arrivés récemment dans ce quartier de Virginie, non loin de la capitale américaine. Partager un repas pour une fête typiquement américaine. Kidis Tesfai est arrivé aux États-Unis grâce à une ONG, le Conseil éthiopien au développement, qui aide les réfugiés à trouver du travail, des écoles et des endroits pour vivre.
Je suis vraiment contente de travailler avec les réfugiés.
Ce repas de Thanksgiving vise à souhaiter la bienvenue aux réfugiés qui viennent d'arriver aux États-Unis.
Le but, c'est de leur apporter l'amour et montrer que les États-Unis, c'est l'opportunité. L'Amérique est pour tout le monde, c'est ça le programme du dîner.
Être autour d'une table pour ce dîner de Thanksgiving est en quelque sorte un buffet multiculturel. Sadiq Ali Haidari est venu du Pakistan avec sa fille âgée de 19 ans. Je crois que c'est mon cinquième ou sixième Thanksgiving. Rayonnant de sourire, Chandra est originaire du Sri Lanka.
C'est très sympa, je vois beaucoup de gens venus de pays différents et une nourriture différente.
Il n'y a pas de débat politique à ce dîner, seulement les gens à table pour apprécier la bonne compagnie de la nourriture. Sarah Zulo est membre de l'ONG Conseil éthiopien au développement.
Lorsque des personnes partagent un plat, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Soudain, elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup plus en commun que de différences.
Embrasser ces différences est cela qui a permis à l'ONG de tenir plus de 30 ans. Le docteur Tesha Etefera, président et fondateur de l'ONG Conseil éthiopien au développement. Notre rôle dans le processus d'installation des réfugiés est de les intégrer à la communauté. Il n'y a pas meilleur moyen que Thanksgiving comme partie de ce processus. Ensemble, ces familles qui rêvent d'un avenir meilleur aux États-Unis rompent le même pain, suivant une tradition bien américaine.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.